J'irai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
On parle, comme promis, à nouveau de la 15e édition du Printemps des Poètes, avec son directeur artistique Jean-Pierre Siméon, qui est toujours avec nous. Le thème, cette année, c'est les voix du poème, voix V-O-I-X, et les voix au pluriel. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que depuis toujours, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, la poésie est liée à la profération, à la voix, dans son origine, bien sûr, mais il y a aussi, même quand elle est écrite, même quand elle est silencieuse, je veux dire, une voix. Il y a toujours une voix dans la poésie. C'est une parole humaine, une parole qui s'adresse. Et c'est ça qui nous attache à la poésie, humainement et intimement, c'est qu'on entend quelqu'un nous parler, quel que soit le poème. Donc, on voulait dire tout ça, voilà.
Alors, à vos côtés, en studio, le linguiste Julien Barret, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez L'Harmattan un livre à quatre mains avec le slameur Souleymane Diamanka, un livre intitulé « Écrire à voix haute », une rencontre donc entre un poète et un linguiste, le linguiste c'est donc vous, un livre qui tombe vraiment à pic vu le thème de ce printemps des poètes. D'ailleurs, la tradition orale poétique dont parlait à l'instant Jean-Pierre Siméon, c'est aussi celle du griot, oui. Et c'est dans cette tradition-là que quelqu'un comme Souleymane Diamanka s'inscrit.
Exactement, oui. Il s'inscrit non seulement dans une tradition du griot qui sauterait aux yeux ou à l'oreille avec la langue peule qu'on peut entendre ou avec le fait qu'il est peule, sénégalais mais qu'il a grandi en France, mais aussi cette poésie orale, on en trouve les prémices partout dans toutes les civilisations, vous l'avez suggéré, vous avez évoqué la mélodie française, mais là c'est quand même une appréhension assez fin 19e siècle de mise en musique, on pose des poèmes comme ça sur de la musique classique. Moi ça me fait penser aux troubadours et aux grands rhétoriqueurs qui sont les troubadours des poètes vraiment oraux, qui font des tensu, des joutes oratoires, des poèmes qui peuvent être comparés à ceux des traditions du Majdoub au Maghreb ou du griot en Afrique de l'Ouest, et aussi des grands rhétoriqueurs parce que eux avaient des rimes très très élaborées, des rimes équivoquées, beaucoup de sonorités qui se répondaient comme ça. Donc cette tradition orale, on la retrouve partout et elle s'incarne aujourd'hui avec le rap et le slam.
Alors il y a la tradition orale et puis il y a aussi l'appréhension de la poésie par ceux qui l'entendent. D'ailleurs le parrain du Printemps des Poètes cette année, c'est le comédien Denis Lavant, et il explique que s'il a eu lui accès à Rimbaud, eh bien c'est grâce à ça.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Vous avez reconnu Serge Reggiani qui récitait le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, évidemment c'est sur un disque, hein, ça s'appelle un prélude, et ensuite il y a le Déserteur de Boris Vian, chanté cette fois-ci par Reggiani, et donc c'est Denis Lavant explique que c'est ce disque-là, cet extrait-là, qui lui a permis d'appréhender l'univers et l'œuvre de Rimbaud, notamment Jean-Pierre Siméon, à travers le timbre de Serge Reggiani.
Oui, c'est vrai que, puisqu'on parle d'oralité, le timbre de la voix et la caractéristique propre de la voix de chacun ajoute au poème, évidemment. On sait très bien que, je l'ai dit tout à l'heure, la poésie est incarnée, et la voix restitue cette incarnation du poème. Je dis le souffle, le rythme, le corps au sens du souffle du poumon, de la mastication dans la bouche, voilà, la langue retrouve comme ça, ça part de vie terrestre, si je puis dire, n'est-ce pas ?
Mais vous-même, quand vous écrivez un poème, vous pensez à tout ça ? Vous écrivez un poème pour qu'il soit dit ?
Eh bien, il y a tellement de sortes de poèmes. Moi, j'écris de la poésie pour le livre, si je puis dire, et de la poésie pour le théâtre. Vous savez, j'écris beaucoup, je travaille avec le TNP à Villeurbanne, le Théâtre National Populaire, et je suis considéré comme un poète de théâtre. Et quand j'écris pour le théâtre, alors là, oui, je prends en compte ça, le rythme, le souffle. D'ailleurs, j'écris dans du vers libre, scandé, et qui a des coupes inattendues, abruptes, comme nous avons des coupes abruptes dans la parole. Quand j'écris pour le livre une poésie qui sera peut-être plus dans une lecture rémanente, récurrente, qui creuse davantage, peut-être, alors un peu moins, mais quand même.
Justement, excusez-moi.
Je vais bien barrer.
Rimbaud a-t-il écrit Le Dormeur du Val pour qu'on le scande, pour qu'on le lise, comme le fait de façon datée, forcément, puisqu'il a, Reggiani a fait ça à un moment donné, hein, dans un lieu donné. Ou est-ce que, comme Victor Hugo, il voulait pas qu'on mette de musique à coller ou en bas de ses vers?
Parce que la
poésie orale, certaine, en tout cas celle, par exemple, de Souleymane Diamanka, avec qui j'ai écrit ce livre, ou celle d'un rappeur, d'un slammeur, d'un troubadour ou d'un griot, elle est faite dans cette voix. La poésie après le romantisme, après le symbolisme, est-ce qu'elle n'est pas faite pour être lue dans une introspection? Et cette différence que vous faites dans les deux catégories de poésie que vous écriviez, moi je suis pas du tout convaincu, pardonnez-moi, par cette scansion de Rimbaud. Je sens beaucoup plus de force à le lire, elle me semble réductrice du fait même de son occurrence, de son élocution, de son incarnation dans la parole sonore.
Attendez, je sais pas si on s'entend bien ou quoi. Moi, je pense que Rimbaud, dans la poésie de Rimbaud, il y a une forte oralité. Elle est marquée typographiquement. Il y a plein d'exclamations, d'interruptions, de points de suspension. La ponctuation le marque très fort. Et d'ailleurs, s'il est allé sur des formes poétiques inattendues à l'époque, c'est parce qu'il y avait ça. Il y a le cri chez lui, il y a l'impatience, etc. Donc, l'oralité, elle est marquée dans le texte. Mais je pense que même des textes dans lesquels il n'y a pas d'oralité imprévisible, on peut les oraliser.
Je pense que la poésie appartient aussi à ceux qui la lisent et à ceux qui la lisent.
On peut toujours oraliser un texte, je crois, même le moins susceptible de l'être. Mais ce que vous dites, je suis complètement d'accord, il y a des poèmes qui sont écrits pour ça. Mais les poèmes des troubadours étaient écrits pour ça, évidemment, ils étaient écrits pour la voix. Et puis c'est vrai de toute la poésie première.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier Souleymane Diamanka et plus précisément son album « Liverpool » ?
Ça s'inscrit à la suite d'un livre que j'ai écrit il y a 4 ans, qui était paru fin 2008, qui s'appelait « Le rap ou l'artisanat de la rime », où j'étudiais les figures de style, les comparaisons, la joute oratoire chez les rappeurs, ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire la poésie orale scandée, rimée, avec le retour de ces deux grands fondamentaux que sont le rythme et la rime, la répétition de son, la figure de répétition qui se décline dans le rythme et la rime. Et Souleymane Diamanka, il a fait du rap, ensuite il a fait du slam. Cet album, il date de 2007. Au moment où j'ai songé à ça, il a surgi comme ça, comme peut-être le meilleur dans l'incarnation aujourd'hui de la rime équivoquée, de la métaphore. Le slam, le rap et tout ça se résume en lui.
Eh bien, on va écouter un extrait de cet album paru effectivement en 2007, un extrait qui s'intitule « Moment d'humanité ».
Albarka moƴƴere mon, albarka timminde aadi mon. Miɗo yetta Allah, miɗo yetta fulɓe Bordeaux. Miɗo haalda e Aliou Mbaalo, Tidiane Mbaalo, e yeeru kande gelel jimmi jamba sura suudu wala e nden yankoji.
Voilà ce que disait le poète malgré lui, ce piéton insomniaque qui souffrait du mal des nuits. Avoir une passion de nos jours, ça évite pas mal d'ennuis, car l'oisiveté est une graisse dans le mal s'enduit. Je pousse de toutes mes forces les portes de l'émotion, voyage au fond des âmes où les pensées et les mots sont. Le griot et ses textes, c'est l'architecte et ses maçons, et quand se dressent les murs de l'imagination, même la misère a ses moissons. Ce morceau, c'est juste un moment d'humanité. Je ne suis qu'un pauvre artiste au service de la beauté, qui attend l'inspiration pour écrire le poème, qui attend l'inspiration pour que le poème soit doux comme les caresses que la poème. Il paraît que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Moi, j'ai mis de la sagesse dans les images pour pour que chacun de mes textes soit presque une fresque. Parfois ça ressemble à une séance d'hypnose, car l'ambiance se fait dès que ma voix se pose. Une poésie mystérieuse occupe les subconscients, et c'est l'art griotique venant du sud qu'on sent. J'ai attendu longtemps que le néant s'anime, que chaque mot trouve sa phrase et que chaque phrase trouve sa rime. Le pays des songes est derrière une grande colline. Pour écrire, je me sers de la réalité comme d'un trampoline. Et si un jour ils te demandent qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis Douadja Bidjanaba. Diamant Kassorian.
Moment d'humanité sur l'album Liverpool de Souleyman Diamanka. Julien Barré, vous vous êtes intéressé évidemment à toutes les chansons de l'album et vous le décortiquez dans le livre, la façon dont Souleyman Diamanka écrit et comment il joue avec les mots, avec les sons, avec les lettres. Alors on s'en rend pas forcément compte comme ça quand on écoute ça pour son plaisir ou tout simplement pour la beauté du texte, mais il y a tout un tas de figures de style comme ça que vous analysez. Il y a donc des palindromes, des holorimes, des calligrammes, des contrepèteries. Alors, ça me permet de réviser aussi les figures de style. On se parlait un peu en classe de première. voilà. Mais il pense à tout ça quand il écrit ses textes ou ça vient naturellement?
C'est assez intéressant. En fait, en particulier lui et d'une manière générale les rappeurs qui utilisent des figures propres peut-être à la poésie technique et métrique et rythmée du Moyen-Âge n'en ont pas forcément conscience. Et tout le monde n'a pas conscience de ce qu'on fait de façon générale. Cette rencontre permet de s'éclairer rétrospectivement et respectivement plutôt. Il prend conscience de ça et ça l'influence dans sa façon d'écrire. On a entendu dans le morceau à l'instant, par exemple, subconscient, sud consent. Donc là, c'est une rime qu'on pourrait dire semi-équivoquée. C'est presque une homophonie entre subconscient et sud conscient. On a deux mots qui sont accolés comme ça et qui forment presque un jeu de mots, une équivoque. Ce type de rime est caractéristique du rap français, qui n'est pas un mouvement social d'illettrés. Et du slam,
c'est un peu paradoxal ça, parce qu'on a l'impression finalement que c'est la rue, le rap, le slam qui finalement aujourd'hui s'intéresse de près justement à tout ce qui est métrique, figure de style, etc. Alors que la poésie contemporaine
s'en abstrait. Je vous arrête parce que c'est pas vrai, c'est qu'on la connaît pas la poésie contemporaine, on la lit pas. On entend les slameurs et les rappeurs parfois, pas toujours, on en entend quand même beaucoup, mais la poésie contemporaine, elle est aussi pleine de ça. Je pourrais vous citer plein de poètes qui font aussi ce travail. Vous savez, moi, c'est
pourquoi ils n'ont pas pignon sur rue, alors?
Pardon?
Pourquoi ils n'ont pas pignon sur rue, ces poètes-là?
On se bat pour qu'ils aient. Pour qu'on les lise, qu'on les entende. D'ailleurs, les poètes lisent beaucoup maintenant. Vous savez, moi, ça m'impressionne.
Ils lisent plutôt qu'ils ne disent souvent. C'est peut-être un des problèmes. Mais c'est vrai ce que vous dites.
Mais en tout cas, moi, je connais Diamanka. Je l'ai entendu aux Étonnants Voyageurs. Il a un vrai talent. Il y a slam et slam. Il y a rap et rap. Ouais. Il y en a qui m'intéressent beaucoup et qui intéressent d'ailleurs tous les poètes et qui regardent avec beaucoup de respect. C'est comme dans Diamanka, une langue qui est vraiment élaborée. Il n'y a pas de poésie sans élaboration de la langue.
Exactement.
Et une élaboration forte. Mais les procédés qu'utilise Diamanka, vous les trouvez chez Charles Péguy. Je vous jure, chez Péguy, il y a un système d'anaphore, par exemple, de répétition insistante et scandée.
Chez François Hollande.
Mais on trouve ça et par exemple, l'homophonie dont on vient de parler, ouais, on la trouve chez Hugo. On la trouve chez Hugo. Donc, ces gens-là, comme Diamanka, retrouvent le grand répertoire formel de la poésie, et ça, c'est formidable. Simplement, il y a des rames et des slams, et des raps et des slams, pardon, je vais dire des rames et des slaps, qui sont, à mon avis...
On dirait du Jean-Pierre Verhegan.
Ouais, comme il y a de la mauvaise poésie, il y a aussi du mauvais slam. C'est-à-dire qui sont...
Il y a une place pour le slam au Printemps des Poètes.
Mais bien sûr, bien sûr. Il y a une place pour toutes les poésies. Moi, je défends toutes les formes de la poésie, parce que la poésie, depuis toujours, c'est pas nouveau, a été immensément variée. Écoutez, dans la tradition poétique universelle, vous avez le haïku, vous avez le pantoum, vous avez le sirandane, vous avez la sourate du Coran, tout ça, c'est des formes poétiques. On n'a pas attendu le 20e siècle, le 21e, pour multiplier les métamorphoses poétiques.
Julien Barré.
Je souscris à votre programme, à votre vision de la poésie, et à ce que déploie le Printemps des Poètes. Peut-être une réponse Monsieur Cadet, à votre interrogation sur le fait qu'on entendrait plus les slameurs ou les rappeurs que les poètes contemporains, à mon avis, c'est tout simplement parce que c'est de la poésie orale qui est faite pour être dite, scandée, rimée, et que la poésie actuelle, bien qu'elle soit extrêmement intéressante, elle procède elle est post-moderne, le surréalisme est passé par là, le dadaïsme, tous des mouvements d'avant-garde, le lettrisme du XXe siècle, la poésie sonore est moins audible dans ces borborygmes ou ces recherches sonores que une parole simple et scandée qui revient aux fondamentaux et
on peut en tout cas découvrir cette poésie contemporaine au printemps des poètes, mais en dehors précisément de cette manifestation annuelle, Jean-Pierre Siméon, est-ce que l'intérêt pour la poésie est vraiment soutenu partout en France?
Eh ben, justement, il y a du nouveau, là. Il y a du nouveau, je peux le dire. Là, on est au 15e anniversaire du Printemps des Poètes. On a fait bouger les choses. On a fait bouger les lignes. On a redonné une légitimité et une crédibilité aux poètes, tout simplement. Alors, c'est un combat de tous les jours. On se bagarrera jusqu'au bout pour que la poésie soit vivante et au cœur de la cité et audible.
Et on sera avec vous.
Vous m'en direz des nouvelles.
Merci à nos invités. Jean-Pierre Siméon, le Printemps des Poètes, c'est donc jusqu'au 24 mars. Beaucoup de lectures un peu partout en France, dans les cafés,
et à l'étranger,
dans les théâtres, marchés, sur les places et à l'étranger. Effectivement, combien de pays cette année?
Ah, je sais pas, mais beaucoup. Du Bénin au Québec, du Luxembourg, je sais plus, vous savez, j'ai pas tout en tête,
bon,
mais
on peut aller
regarder
site
sur le site du Printemps des Poètes.
Voilà. Et merci également à vous, Julien Barré. Votre livre avec Souleymane Diamanka, Écrire à voix haute, rencontre entre poète et un linguiste, c'est chez L'Armatan. Demain,
merci beaucoup.
C'est un poète américain que nous recevrons, un poète folk et rock'n'roll, Elliot Murphy. Il viendra nous présenter en live son nouvel album. Vous m'en direz des nouvelles.